Ça, nous voici arrivés à la Pentecôte, là, au thème de tout ce temps de Pâques. Et alors, nous voici en le jour où le Seigneur veut vraiment nous faire le don de son Esprit Saint. Alors, je vais essayer de vous dire trois choses. La première, c'est que ce qui est le plus manifeste dans le récit de la Pentecôte tel que nous l'avons dans les Actes des Apôtres, c'est que l'Esprit Saint transforme des disciples qui avaient peur, qui s'étaient enfermés, etc. Et à ce moment-là, ils ouvrent les portes et ils proclament la victoire de Jésus sur la mort. Voilà, alors là, c'est assez spectaculaire. Il y a un coup de vent, il y a des flammes, etc. Donc, c'est quelque chose de très spectaculaire. Ça sera cette première manière de voir la Pentecôte. Une deuxième manière de voir la Pentecôte, ça sera la deuxième partie, c'est de voir que à côté de cette action très visible, on voit il y a du feu, hein, il y a une action beaucoup plus intime, beaucoup plus intérieure, qui sanctifie les disciples et transforme intérieurement pour qu'ils soient habités par les sentiments mêmes de Jésus. Alors c'est ce qui apparaît davantage dans la lettre de saint Paul et dans l'évangile de saint Jean que nous entendons aujourd'hui. Mais il faut une troisième partie, parce que c'est bien beau, parce que l'Esprit Saint, ce n'est pas seulement pour les apôtres il y a 2000 ans, c'est pour nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, hein? C'est la question des auditeurs à Saint-Pierre à la fin. Mais alors qu'est-ce qu'on veut? Nous aussi, on a besoin de l'Esprit Saint, non seulement on le désire, mais on en a besoin. Alors j'essaierai de vous donner quelques indications pour se disposer à accueillir l'Esprit Saint. Voilà. Alors, première partie, donc, l'Esprit Saint, c'est un feu qui est là pour nous faire évangéliser, qui nous est donné pour évangéliser. C'est le feu qui unit le Père et le Fils. Et donc, l'Esprit Saint, il fait grandir, on pourrait dire, l'Église en quantité, hein, pour multiplier le nombre de disciples. La deuxième partie, c'est plutôt en qualité, justement, de vie intérieure, etc. Mais donc, voilà, c'est d'abord l'Esprit Saint ce feu qui nous fait évangéliser. Alors, Jésus l'avait annoncé déjà comme une force venue d'en haut. Quand, à la fin de l'évangile de Saint-Luc, vous serez revêtus d'une force. Attendez, vous précipitez pas, mais attendez dans la prière cette force venue d'en haut qui vous donnera d'annoncer l'évangile. Et on le voit aussi au début des Actes des Apôtres. Alors, ils se réunissent dans la prière. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cet Esprit Saint qui est une force, et il y a quelque chose, comme vous l'avez entendu, d'un peu spectaculaire dans ce récit des Actes des Apôtres. Alors, saint Bernard le dit d'une manière sympathique. À présent, il déploie plus d'énergie à prêcher qui n'en déployait naguère à s'enfuir. Voilà, ils sont vraiment changés. Maintenant, ils y vont. Vous me permettrez la comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais on a l'impression là, qu'ils reçoivent la potion magique, et voilà, ils y vont. À côté de cette force, toujours pour évangéliser, il y a de multiples charismes qui sont donnés. Saint Paul en parle beaucoup, notamment dans la première épître aux Corinthiens. Il leur dit, mais par l'Esprit, il y en a. Certains reçoivent une parole de sagesse, un autre une parole de connaissance, un autre des dons de guérison ou des dons d'opérer des miracles ou de prophétiser, de dire des paroles mystérieuses. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de charismes qui sont donnés pour l'évangélisation. Vous savez qu'un charisme n'est jamais donné pour son confort personnel ou même le confort d'un groupe, il est donné pour l'Église universelle. Toujours un charisme, c'est pas pour être meilleur que le voisin, non, c'est pour l'Église, hein. On voit ces charismes tout à fait variés qui sont donnés au moment de la Pentecôte. Et ces charismes, ils sont exercés dans l'unité pour former une harmonie. Hein, s'il y avait des instruments, mais pas du tout accordés, on se boucherait les oreilles. Et puis, mais ce serait pareil pour les charismes. Tandis que les charismes, ils sont là pour être exercés dans l'harmonie, dans l'unité. C'est saint Paul encore qui dit, il y a cette diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Donc il y a une unité dans la diversité, une harmonie. Alors il y a une image que donnait saint Augustin, il dit, voilà, le Saint-Esprit, c'est un peu comme l'âme dans le corps. Vous savez bien, le corps, quand on est mort, ben, il se décompose assez vite. Mais c'est pareil pour l'Église, pour une communauté paroissiale, religieuse. Quand l'Esprit Saint n'est plus là, voilà, les forces de division sont plus fortes que les forces de cohésion. Alors l'Esprit, c'est à la fois celui qui donne une diversité impressionnante de charismes. On ne sait pas combien il y en a, parce qu'ils sont tellement divers et variés. Et en même temps, exercer dans l'unité. Voilà, alors ça, c'était la première partie. On a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin de ses dons pour que l'Évangile résonne jusqu'aux extrémités du monde. Deuxième partie, l'Esprit Saint n'intervient pas seulement pour augmenter l'Église en nombre. Il faudrait qu'on soit plus de 10 milliards de chrétiens, mais aussi pour intérieurement gagner en qualité de vie, qu'on appelle à juste titre spirituelle, la vie dans l'esprit, pour gagner dans cette vie intérieure, cette vie avec Dieu. Saint Jean parle beaucoup, voilà, le Père et le Fils qui viennent demeurer en nous. Et ça, c'est aussi l'Esprit Saint qui nous permet d'être cette demeure de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que Dieu demeure en vous? Alors c'est une action beaucoup plus discrète, beaucoup plus intérieure. Donc dans l'Esprit Saint vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. On voit que c'est aussi saint Paul dans la deuxième lecture, il disait, voilà, l'Esprit Saint fait de nous des fils, c'est en lui que nous crions « Abba, Père ». Et alors l'Esprit Saint nous apprend à vivre cette confiance, donc c'est vraiment une action beaucoup plus intérieure, cette confiance à l'égard de Dieu. Oui, je peux lui faire confiance. Jésus a donné sa vie pour moi, et par amour pour moi, je peux lui faire confiance, m'abandonner entre ses mains. Et voilà, j'ai vraiment un Père dans le ciel qui m'aime. Et cette action intérieure aussi, elle nous donne de porter du fruit. Alors, il y a les fruits assez spectaculaires. Si vous faites des miracles et tout ça, vous ressuscitez des morts, ça c'est spectaculaire. Mais il y a d'autres fruits qui sont beaucoup moins spectaculaires. C'est ce que saint Paul appelle les fruits de l'Esprit Saint dans l'Épître aux Galates, si vous voulez aller voir. Charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est pas des vertus musclées qui en mettent plein la vue à tout le monde. Au contraire, c'est des qualités très délicates, on pourrait dire. Et c'est saint Paul qui nous dit ça, on pourrait dire. Saint Paul, là, c'était pas le dernier venu, hein. Il avait de la niaque, comme on dit, il y allait. Mais c'est les fruits de l'Esprit Saint, il ne le met pas tellement dans son impulsivité, on pourrait dire, il la met justement plutôt dans cette bonté, cette confiance dans les autres, cette joie, cette paix, etc. Donc c'est beau de voir que l'action de l'Esprit Saint, il a une action pour étendre l'Église, mais aussi une action pour modeler notre cœur de l'intérieur, pour que ce soit un cœur bon qui témoigne de la bonté de Dieu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire une citation de saint Bernard. Rien de plus doux en Dieu que son Esprit Saint, il est la bonté même de Dieu. Voilà, et c'est cette bonté de Dieu qui doit nous irriguer. Et encore, pour continuer dans ce sens-là, dans cette action de l'Esprit Saint en nous, c'est l'Esprit Saint qui nous donne le goût des choses, qui nous fait... Il y a une saveur, il y a... Alors, le curé d'Ars a des paroles très belles, et il parlait certainement d'expérience. Voilà ce qu'il disait, par exemple. Sans le Saint-Esprit, tout est froid. Si vous mangez de la viande froide et tout ça, bon, quelquefois on le fait volontairement, mais certaines fois, je ne sais pas si certains plats, mais si c'est froid, on ne l'apprécie pas trop. Alors, sans le Saint-Esprit, tout est froid. Aussi, lorsqu'on sent que la ferveur se perd, il faut vite faire une neuvaine au Saint-Esprit pour demander la foi et l'amour. Et à un autre moment, le curé d'Ars nous dit, il faut savoir qui nous conduit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, nous avons beau faire, il n'y a pas de substance ni de saveur dans ce que nous faisons. Si c'est le Saint-Esprit, il y a une douceur moelleuse. Voilà, alors c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait goûter la beauté, la bonté de Dieu. Voilà, alors ça c'est vraiment une action intérieure de l'Esprit-Saint. Donc j'ai essayé juste ici de vous dire deux actions complémentaires de l'Esprit-Saint. Cette action plutôt à l'extérieur pour étendre l'Église, parce que Jésus veut sauver tous les hommes, est venu pour ça. Et cette action très intérieure qui nous fait goûter les choses et qui nous donne une joie profonde. Bon, c'est bien beau, mais comment on le reçoit maintenant, l'Esprit-Saint? Comment on fait? Alors je vous donne trois pistes pour se disposer, parce que bien sûr, on ne lui commande pas, il n'est pas à notre service dans le sens, mais il n'attend que ça, de venir nous habiter, nous irriguer. Alors je vous donne trois pistes, parmi d'autres, hein, il y en aurait sans doute d'autres. Déjà, la première, c'est la prière. C'est tandis qu'ils étaient en prière que l'Esprit-Saint est venu. Et dans les Actes des Apôtres, si vous allez voir, mais je ne vais pas le faire parce que sinon je prendrai trop de temps, mais souvent il y a des effusions de l'Esprit-Saint au moment où ils sont en prière. Et de fait, Jésus, dans l'Évangile, avait relié le don de l'Esprit-Saint à la prière. Je vous cite un passage de Saint-Luc. « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ?» Donc il faut le demander. Et le demander avec persévérance, et le demander avec confiance. Ça, c'est une première chose, je pense. Il faut le demander parce qu'on en a besoin. Hein, c'est le curé d'Ars encore qui disait, nous sommes des pauvres qui avons besoin de tout demander à Dieu. Une deuxième qualité que je retiendrai, c'est l'humilité. Là, on voit aussi, je me réfère toujours à l'évangile de Saint-Luc, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et il dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » L'humilité a un grand pouvoir pour attirer la grâce de Dieu, pour attirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne nous est pas donné pour cultiver notre ego. Hein. Voilà, alors c'est aussi une grâce. L'humilité, c'est aussi dans la relation les uns avec les autres. C'est Saint-Pierre, je crois, qui nous dit dans son épître, sa première épître, « Revêtez-vous tous d'humilité dans vos rapports mutuels. » Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Si on est complètement orgueilleux, on n'est pas très réceptif à l'Esprit-Saint. Troisième et dernière qualité, j'y arrive, c'est, alors là c'est un mot qui nous plaît plus ou moins, l'obéissance. C'est toujours dans les Actes des Apôtres qu'il est dit « Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent ». Alors, c'est-à-dire que désirer faire la volonté de Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Et ça, ça se traduit de diverses manières. Si on est trop attaché à notre programme, à nos propres idées, l'Esprit-Saint aura du mal à trouver une place en nous. Donc, ça suppose une forme de détachement, de souplesse, pour que l'Esprit-Saint puisse trouver sa place. Sinon, si on lui... Il est poli, l'Esprit-Saint. Il ne veut pas prendre une place qu'on ne lui donnera pas. Donc, il faut lui ouvrir un espace pour qu'il puisse venir. Et ça se fait notamment dans l'obéissance. Alors, je conclue. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à le demander dans la prière. Et le pape Benoît XVI, il y a quelques années, disait ça. Il n'y a pas d'église sans Pentecôte. Et je voudrais ajouter, il n'y a pas de Pentecôte sans la Vierge Marie. Il en était ainsi au commencement, au Cénacle, où les disciples d'un seul cœur participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Alors, tournons-nous vers Marie. Elle attire l'Esprit-Saint. Alors, il vaut mieux se mettre à côté d'elle. On a plus de risques de recevoir l'Esprit-Saint. De bons risques, hein, c'est ce que j'entends, bien sûr. Alors, demandons cette grâce de l'Esprit-Saint parce que ça change vraiment tout, à la fois pour nous personnellement, mais à la fois pour l'Église. Amen.